pays. Paysan. Paysage. Un tour au musée de la Chalosse. Installé dans un écrin de verdure sur le site du domaine de Carcher à Montfort-en-Chalosse, le musée de la Chalosse vous fait découvrir l'autre visage des Landes, celui plus vallonné, plus fertile que les Landes de Pins au nord de l'Adour. Un pays qui, pour certains, est le véritable jardin secret des Landes, la Chalosse. Marqué par un paysage spécifique et une histoire singulière, la Chalosse se raconte à travers son musée, mais se découvre aussi au fil de ses territoires. Dans cette émission, tous les mois, nous reviendrons sur les recherches actuellement en cours autour du thème de l'exposition 2021 du musée de la Chalosse, des bars et des histoires. Avec la complicité du collectif artistique du Demi-Tour de France, des membres du comité scientifique de l'exposition et de l'équipe du musée, on évoque ensemble la Chalosse d'hier et d'aujourd'hui. Alors avant de poursuivre sur les autres fonctions du café qui n'est pas qu'un débit de boisson, comme nous l'avons vu jusqu'ici, interrogeons-nous sur leur origine, intimement liée à celle de l'hospitalité, des voyages et autres pèlerinages. Aujourd'hui, on se concentre sur les auberges, tavernes et cabarets.
Des tours, des détours, un demi-tour en Chalosse.
Demi-Tour de France, c'est un collectif artistique composé de Marie Boutier et Anouk Lemarquis. Photographe, vidéaste, spécialistes d'architecture vernaculaire, artistes itinérantes s'il en est, puisqu'elles ont parcouru la France pour y observer les traces laissées dans les différents espaces de vie, notamment ruraux, mais aussi en banlieue. Elles sont venues en résidence sur les cafés de Chalosse, sur le territoire de Terre de Chalosse, d'octobre 2019 à septembre 2020, et se sont rendues à la rencontre des cafetiers, mais aussi de l'esprit des lieux. Ici, elles se rendent à Maïlis, à la découverte de son abbaye, où se trouve, figurez-vous, un ancien café, chez Yvette, racheté après sa fermeture par la communauté bénédictine qui s'y trouve.
Et bien là, on est donc dans le couloir de la maison d'Yvette. Là-bas, au fond, il y avait le bar, donc, qui hélas, vient d'être enlevé. Pendant le confinement, on a enlevé le bar parce qu'on a voulu commencer des travaux pour réhabiliter cette pièce. Et puis, mais les travaux attendent encore. Donc, les gens rentraient par ici, c'était l'entrée du bar, et donc, qui a fermé en 1986, si je me souviens bien. Mais je suis pas archi sûr des dates, c'est dans ces eaux-là, quoi. Il avait été ouvert je ne sais pas quand. Peut-être que Régine vous a dit quand est-ce qu'elle...
Ouais, peut-être, non, il me semble pas. Enfin, l'ouverture.
Yvette qui habitait ici, donc elle est morte en 2000 et quelques. Elle avait 95 ans. Et donc, elle était née dans cette maison. Et c'était son père qui avait fait construire cette maison. Donc, il y a des chances que c'était son père qui avait commencé le bar et le restaurant. Et ça, je sais pas. Donc, ça veut dire que c'était au début du XXe siècle, quoi. Mmh. Voilà. Et pendant longtemps, ça a été le seul lieu de vie du village, à part l'église. Donc, les gens, après, par exemple, après la messe le dimanche, venaient prendre un petit café au bar, ou bien pendant la messe, ceux qui ne voulaient pas aller à la messe venaient rester ici. Encore que Yvette était très pieuse, qu'elle allait à la messe à la fin de sa vie, pratiquement tous les jours. Pas tous les jours, mais enfin, elle y allait souvent. Elle venait au vêpres, voilà, c'est très, très souvent. Voilà, elle aimait bien venir prier avec les moines. Là, c'était le restaurant. Voilà, donc c'était restaurant, c'était pas vraiment restaurant, c'est-à-dire qu'on demandait à avoir un repas, et puis elle préparait le repas, elle faisait le menu à l'avance, et c'était comme ça. Là, vous avez aussi la cabine téléphonique, donc ça a été la deuxième cabine téléphonique du village. Au début, c'était chez nous, au monastère, et donc il y avait un seul poste de téléphone pour tout le village. Quand quelqu'un avait besoin d'utiliser le téléphone, il allait au monastère, et donc on a demandé après, comme ça faisait trop de monde qui passait chez nous, on a demandé à Yvette de prendre la cabine téléphonique, et donc c'est ce truc antique, ce qui vaut le coup d'être vu quand même si c'est un peu le souk à l'intérieur, on peut arriver, voilà.
C'est exigu, on devait être,
ouais,
on devait être bien dedans.
On devait étouffer pour les bonnes et mauvaises nouvelles.
C'est ça. Elle a été enlevée quand, la cabine?
Oh, franche, je sais pas, ça doit... Dans les années 70, un truc comme ça, quoi. Ou même 60, je sais pas quand, à partir de quand ça, on a commencé à avoir des téléphones un peu partout.
Régine nous disait qu'en 63, elle l'utilisait encore.
Ici?
Oui.
Et donc c'est ça, des 60-70, quoi. Ça, c'était de la réserve. Donc il y avait deux gros frigos qui étaient là, qu'on a démontés. Et il y avait aussi un panneau qu'on a conservé, alors qui a été pris par un frère, avec répression de l'ivresse publique. Donc c'est dans tous les bars, il fallait qu'il y ait ça. Jusque je ne sais pas dans quelle année, enfin, mais j'ai vu ça quand j'étais petit, on voyait ça dans tous les bars, quoi, en fait.
Ah oui, mais je crois encore.
Et on essayait encore.
Quand?
Ça y est encore.
Ça y est encore.
C'est
obligatoire. C'est
obligatoire,
ouais.
Ouais.
Ok. Je ne fréquente plus trop les bars, hélas. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Okay. Et donc, en fait, ici, les gens jouaient aux quilles. Donc, en fait, sur la façade, il y a une petite... comment s'appelle
Enseigne, un signe.
Ouais, c'est ça, où les quilles étaient enfermées.
Ah,
et donc,
ouais.
On louait la clé des quilles à Yvette. Et ensuite, on les alignait ici. Et puis, avec une boule, il fallait jouer un peu comme un bowling, quoi, en fait. Donc, c'était un jeu qui était important ici.
Oui, on s'est renseigné. Il ne reste plus aucun jeu de quilles en Chalosse.
Ah
ouais?
Ah tiens.
C'est, après, on nous a parlé d'un autre village, mais je sais pas, c'est pas en Chalosse. Et il n'y a plus aucun jeu existant.
Ah oui, c'est ça, oui. Et oui, on est passé aux consoles. C'est terrible. Pourtant, ça va être un jeu. Je crois qu'il y a encore sur le mur l'abri des quilles. Là. Le sinusson. Le billard n'est pas d'époque, c'est quelqu'un qui nous a donné un billard. Voilà. Là, les quilles étaient rangées là-dedans.
Donc il y avait une petite...
Voilà, c'est ça. J'avais souvenir qu'il y avait une clé, il ne semblait pas. Ah si, voilà, il y avait un cadenas. Donc c'était fermé à clé. Donc on avait le droit de... Quand on avait la clé, on pouvait prendre des quilles et aller jouer.
Super.
Le temps imparti.
Et l'épicerie, elle faisait aussi épicerie un peu,
non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas connu ça.
Je pense qu'il y a eu une période
où il y avait une belle épicerie.
Ouais.
Ah,
ouais.
C'est possible.
Super.
C'est bon.
Bah, merci beaucoup.
Il y a pas de quoi. La photo souvenir.
Vous êtes bien dans l'émission Pays paysan paysage sur le 93.8 Chalosse-Tursan.
Bonjour Nicolas Cahagne, vous êtes géographe, auteur de la thèse sur les cafés bretons, la ruralité au comptoir et membre du comité scientifique de l'exposition.
Oui, bonjour Marie.
Le coin des historiens.
Alors Nicolas, quelle est l'origine des cafés?
Eh bien, l'origine des cafés, alors c'est une question difficile parce qu'on peut sans doute dire que les débits de boissons pris dans un sens large, en tout cas en tant que lieu où on partage une boisson, jalonnent l'histoire humaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir des 11e et 12e siècles, on va voir se développer les prémices d'une industrie hôtelière, puisqu'à cette époque, la société médiévale s'urbanise, les échanges commerciaux s'intensifient et les routes commencent à s'animer. On voit alors fleurir des auberges dans les villes commerçantes, le long des axes commerciaux, et ces auberges, elles sont destinées à loger et nourrir tous ces pèlerins, ces soldats, ces marchands, ces étudiants, qui sont toujours plus nombreux à s'aventurer sur les routes, malgré les conditions difficiles du voyage médiéval. Donc là, je parle surtout des auberges. Pour les tavernes, ce n'est que vers la fin du Moyen-Âge qu'elles vont définitivement prendre place dans la cité. On les voit d'ailleurs de plus en plus dans la littérature médiévale, sans doute une preuve qu'elles prennent une place croissante dans la vie quotidienne des habitants. Et alors les tavernes, ce sont des établissements dans lesquels le vin est vendu à emporter. Les cabarets, en revanche, sont les établissements dans lesquels les clients peuvent s'attabler. Alors c'est une distinction théorique, administrative, qui est même largement contredite par les faits. Et cette distinction, elle prend fin au XVIIe siècle avec le terme de taverne qui s'efface progressivement au profit de celui de cabaret.
Et alors, quelles sont les fonctions de ces lieux à cette époque ?
Eh bien, ces lieux se développent non seulement parce qu'ils assurent des fonctions primaires, et la première de ces fonctions, c'est bien sûr de fournir des boissons. Souvent, ils fournissent même le couvert, parfois le gîte. Mais les historiens ont montré aussi le rôle important de ces lieux dans ce qu'on appelle la structuration des sociabilités populaires dans l'Ancien Régime. Alors, par exemple, l'historien Robert Muchembled explique que, je cite, « les fonctions de ce bâtiment profane ne se limitent pas à la boisson, aux jeux et aux danses. Véritable maison du peuple, il est aussi et surtout peut-être un point central de toutes les activités communautaires. »
Ah. Et ce que vous dites vaut aussi bien en ville qu'à la campagne, parce que c'est vrai que notre sujet porte sur la Chalosse, un lieu rural.
Oui, alors c'est vrai que les sources dont disposent les historiens sont surtout des sources urbaines, et notamment parisiennes d'ailleurs, mais on sait que les tavernes investissent aussi les campagnes. Alors d'abord les gros bourgs, là où s'établissent les foires et les marchés, alors qu'ailleurs, ce sont au départ souvent des habitants qui font taverne en livrant du vin au domicile des clients. Alors la percée des débits de boissons est en effet plus timide dans les villages parce qu'il y a cette traditionnelle veillée qui se maintient comme principal vecteur de la solidarité rurale. Mais ces lieux, les débits de boissons, se développent néanmoins dans les campagnes, même si leur fréquentation est peut-être surtout dominicale, puisque c'est en effet le dimanche que les paroissiens du bourg et des villages alentours se réunissent pour la messe, ce qui est l'occasion de se rendre au cabaret.
Et tout s'explique pour la Chalosse, qui est un territoire très très religieux pendant très longtemps, et où aussi bien les veillées, les foires et les marchés font tout leur sens. Donc effectivement, on comprend pourquoi on retrouve des cafés en Chalosse. Et alors, le café, la boisson, apparaît quand même un peu plus tard que les tavernes et les cabarets eux-mêmes.
Oui, alors le café, la boisson, débarque en France par le port de Marseille au milieu du XVIIe siècle, en provenance des pays turcs, et il va atteindre la capitale quelques années après. Et c'est vrai que c'est un succès immédiat qui se traduit par la création d'une communauté de distillateurs limonadiers qui va se distinguer très clairement de celle des taverniers, des marchands de vin et des cabaretiers, puisque ces nouveaux commerçants sont alors autorisés à vendre du café, bien sûr, mais aussi des boissons sucrées, des liqueurs, des fruits confits, des glaces. Et donc, les maisons de café, comme on les appelle au départ, vont se distinguer à bien des égards des tavernes et des cabarets et vont induire de nouvelles manières de boire en commun. Alors, pour des historiens comme Robert Muchembled, que j'ai déjà cité tout à l'heure, le succès des cafés est le résultat d'une forme de sécession bourgeoise à l'égard des formes de sociabilité qui sont offertes par les tavernes et les cabarets. Il explique que la révolution qui est apportée par les maisons de café, elle se situe surtout dans le décor, l'atmosphère des lieux, et par conséquent, dans le public qui est visé. Alors le grand établissement parisien qui va naître à la fin du XVIIe siècle, et qui existe encore d'ailleurs, c'est le Procope, et le Procope c'est le précurseur de ce renouveau. Vous avez du marbre, des lustres en cristal, de l'espace, tous ces éléments qui permettent d'attirer une clientèle plus respectable, des auteurs, des gens de lettres, la bonne société. C'est que le café est censé, la boisson, est censée faciliter, contrairement à l'alcool, la conversation sans troubler la raison. Dès lors, toutes les villes du royaume vont connaître un tel engouement pour les maisons de café dans lesquelles vont se presser les élites locales. Ce qui fait que la hiérarchisation sociale des débits de boissons reflète en partie la hiérarchisation de la société de l'époque moderne.
Ah oui, et alors vous écrivez aussi que le 19e siècle connaît justement une explosion du nombre de débits de boissons.
Oui, alors les historiens qui ont traité cette question, comme Didier Nourisson, Thierry Fillot par exemple, considèrent le 19e siècle comme une période charnière en matière d'alcool, d'alcoolisme et d'alcoolisation. Alors c'est en effet d'abord un siècle qui est marqué par une forte croissance de la production d'alcool. On améliore les techniques de distillation, on industrialise cette production, et vous avez également une baisse des coûts de transport, ce qui fait que le prix de l'alcool va fortement baisser. la consommation d'alcool va s'amplifier et se diffuser dans l'ensemble de la société tout au long de ce siècle. Dans le même temps, le nombre de débits de boissons va fortement augmenter lui aussi, dans tout le pays et en particulier dans le quart nord-ouest. Alors c'est un phénomène qui va être d'abord tangible en ville, et notamment les villes portuaires, les villes ouvrières, et dans les campagnes, les débits de boissons se multiplient aussi, mais surtout dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec ces jeunes hommes qui vont s'émanciper progressivement de la traditionnelle veillée en rejoignant les cabarets des bourgs, puis les artisans ruraux, les charrons, les cordonniers, etc., qui vont trouver dans l'exploitation d'un débit de boisson une opportunité pour mettre à profit les temps morts de la journée. Et donc pour Didier Nourisson, la multiplication des débits de boissons dans les campagnes aurait permis une véritable révolution des mentalités en permettant la cohabitation des petits, les fermiers, les ouvriers agricoles, de leurs maîtres et des notables. Donc ces lieux vont progressivement devenir des points névralgiques de la vie du village.
Oui, alors en fait, c'est la République qui se construit au café pratiquement. Cette dynamique se poursuit-elle au XXe siècle ?
Alors, c'est vrai que la hausse du nombre d'établissements se poursuit au début du XXe siècle. On entre dans une civilisation du bistrot qui est favorisée par l'âge d'or des apéritifs qui se répandent dans la société à grand renfort de publicité, d'images, de slogans, de marques phares, etc. Vous avez le rituel de l'apéritif quotidien qui s'installe. Et donc c'est une nouvelle façon de consommer qui est ainsi promue, et donc de nouvelles habitudes au bistrot qui se développent. Alors les cafés vont aussi devenir les vecteurs de diffusion de la modernité en s'équipant des nouvelles technologies de leur époque, le phonographe, la radio, les nouveaux types de musique, de danse, etc. Et vous avez, pour ce qui concerne les campagnes, les mentalités urbaines qui vont s'installer dans les villages, en partie par les pratiques des bars et des cafés. Alors après la Seconde Guerre mondiale, cependant, le nombre de cafés va connaître une baisse irrémédiable. Cette tendance à la baisse, elle a sans aucun doute des causes multiples, parmi lesquelles la réglementation autour des débits de boissons qui se développe, mais on peut aussi invoquer des raisons d'ordre sociétal. Le rôle du bar, du café, au sein de la société, se transforme du fait d'un certain nombre d'évolutions de la société, la généralisation des télécommunications, des médias, du confort, du chauffage dans les logements, du fait aussi du développement des loisirs culturels et sportifs, etc. Tout un tas d'éléments qu'on peut avancer, qui font que les cafés sont de plus en plus en concurrence avec d'autres activités et se doivent donc de renouveler leur offre afin de mieux répondre aux attentes du public.
Alors ça ferait vraiment l'objet d'une prochaine émission, je pense, justement, toutes ces raisons sociétales qui ont transformé et fait aussi disparaître ou réapparaître pour certains territoires les cafés, en tout cas à la fin du XXe siècle. Merci Nicolas Cagne. On verra dans une prochaine émission, avant d'embrayer sur cette disparition progressive des cafés, cette évocation de ce que vous disiez, le café c'est le lieu qui rassemble pendant très longtemps dans les villages, et on va s'intéresser aux occasions pour lesquelles on se rassemble au café dans la prochaine émission. Voilà, rendez-vous la prochaine fois pour en savoir plus. Merci.
Merci à vous.
Le cas noir, planté par Aristide Tourlon. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre ce cèdre qui me dit cher au cœur. D'où viens-tu, vieille branche ? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est demain lundi. Je cherche fortune autour du chanoir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chanoir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais mademoiselle Claire, à qui je murmurais: comment vas-tu la belle? Très bien, et vous, merci. À propos, me dit-elle, que cherchez-vous ici? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bas. d'ombre, en haut les chats braillaient, quand j'aperçus dans l'ombre de grands yeux qui brillaient. Une voix de rogome me cria, mon chien, que vous y prends, jeune homme, que faites-vous, moi, rien. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bar. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ventre de soir. La lune était obscure quand on me transporta dans une préfecture où l'on me demanda, êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bar. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bar. Je
Léo, qu'il y a de Nao?
Alors Isabelle, qu'est-ce qui va se passer avec cette reprise de la programmation sur les cafés de campagne et sur l'exposition?
Alors, des bars et des histoires, cette exposition sera présentée au musée de la Chalosse de mars à octobre 2021. Ce sont aussi des dates d'animation, de rencontres, de soirées proposées hors les murs et organisées par les différents partenaires de l'exposition. Ces temps forts des lieux culturels se font sur tout le territoire de la communauté des communes Terre de Chalosse. Alors, qu'avons-nous ce mois-ci? Prenez vos carnets et notez bien.
Je note.
Alors, samedi 14 novembre prochain, c'est la nuit des musées, au musée de la Chalosse. Donc, à partir de 17h et jusqu'à 21h, une visite déambulation se fera autour du thème des boissons. Vous pourrez également, ce même jour, à partir de 17h, assister à la diffusion d'un documentaire dans le cadre du mois du film documentaire L'enracinement à l'ombre des cafés. Alors, c'est un documentaire de 2016 de 52 minutes, écrit et réalisé par trois étudiants partis à la rencontre des tenanciers de bistrots de Sud-Ouest, du Grand Sud-Ouest. Tout au long de leur périple, ils recueillent les témoignages de personnes ancrées dans un territoire et deviennent ainsi les témoins privilégiés de l'évolution des villages français. Alors, bien sûr, les places sont limitées. Pour tout renseignement et inscription, téléphonez au musée de la Chalosse au 05 58 98 69 27 ou par mail à contact@museedelachalosse.fr.
Très bien. Et quoi d'autre?
Alors, le 1er décembre prochain, un café par an, organisé par le service intercommunal de la petite enfance. C'est un temps convivial où les parents peuvent partager autour d'un café leur expérience, leurs préoccupations, leurs questionnements. C'est aussi un lieu où on peut échanger des idées, s'apporter mutuellement, être écouté, rassuré.
Alors donc ce sera le 1er décembre à 19h30 à la maison de Pays de Mugron avec nos collègues de la petite enfance, mais aussi avec Madame Dalcher, psychologue clinicienne à la protection de l'enfance. Donc sur inscription au 05 58 97 69 50, et là aussi le nombre de places est limité.
Évidemment Marie, toutes ces animations sont susceptibles d'être reportées en fonction de l'évolution sanitaire en France. N'hésitez pas à contacter les services ou à consulter le site internet du musée pour disposer de la dernière version de la programmation.
Oui, c'est vrai que ce projet d'exposition, il va être solidaire dans tous les sens du terme de la situation sanitaire et de la situation de nos cafetiers qui souffrent en ce moment et on pense à eux. Merci à Anouk et Marie du Demi-Tour de France. Merci à Nicolas Cagne pour ce point sur la recherche en cours. Merci à Isabelle.
Merci.
Et merci à Radio MDM, à Dichat et à bientôt en Chalosse.